Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Aujourd'hui, on a un épisode où on va parler de Elon Musk et de Twitter, un épisode qui vous donnera envie de dire « Mais what the fuck, Elon ?» un petit peu. On a aussi des infos sur Meta, sur Apple, sur Ethereum, sur l'Ukraine, sur la Russie, sur plein d'autres news tech. Et on se lance tout de suite pour le rendez-vous tech. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, c'est l'épisode numéro 455. Alors on n'est pas encore au 500, au 500e, mais ça s'approche. Je suis Patrick Béja, c'est l'émission où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets. Et on le fait grâce notamment à Kirk Roundhouse et Olivier F, qui sont les nouveaux patriotes qui ont rejoint la grande famille des patriotes cette semaine. Et on a aussi les producteurs Peter Rigal et Raph qui... Tous ces gens-là méritent bien un petit... Merci à vous tous, vous êtes des champions, vous êtes des formidables personnes, des personnes qu'on admire et que moi au moins, je trouve vraiment exceptionnelles. Donc merci à vous tous, patreon.com/rdvjeu, si vous voulez vous aussi votre petite MLG Airhorn. On verra s'il y aura d'autres variantes, hein, ça sera la surprise. Mais merci à vous tous, et en particulier donc aux producteurs Peter Rigal et Raph. Et merci aussi à Jeff, qui est là encore une fois, comme chaque mois, depuis la Silicon Valley. Comment ça va, Jeff ?
Ça va très bien, tu m'as donné une crise cardiaque avec ton espèce de machin, là. J'avais pas, je pas donc bienvenue dans la vallée où pour une fois il y a quelque chose qui se passe, effectivement, what the fuck Elon, et puis super content de vous rejoindre comme d'habitude.
Et tu dis vous parce que c'est non seulement moi et les auditeurs, mais aussi Benoît Curdy qui est bien trop rare dans nos émissions ces temps-ci, il est là, une fois par an, peut-être un petit peu plus quand même. Salut Benoît, comment ça va ?
Salut à tous les deux, grande forme et super content d'être là, effectivement, je me réjouis.
C'est un petit peu du coup, Jeff, est-ce que toi tu es, alors je sais que tu as la nationalité américaine désormais, est-ce que tu as gardé la nationalité française ou tu as juste l'américaine ?
Non, j'ai les deux.
T'as les deux, d'accord. Je suis franco-américain. Ok, bon, parce que j'allais dire, on pourrait commencer le podcast en disant... un Français, un Suisse et un Américain rentrent dans un podcast ou un truc comme ça, mais si t'es aussi Français... Ça marche pas vraiment, ça ferait genre un Français, un autre Français qui est aussi américain, ça marche pas, ça va pas du tout.
Bon, je peux jouer l'américain.
Est-ce que tu peux parler avec l'accent américain ? C'est ça la grande question.
Français avec un accent américain, bah je pourrais essayer.
En deux mots, c'est bon.
Je vais rouler l'air.
Très très bien, parfait. Écoute, tu utilises suffisamment de termes anglais pour que ça fonctionne de toute façon. Pardon ?
Je le fais pas exprès, c'est parce que je me rappelle pas où je connais pas les mots français. Donc.
Mais tu sais, il y a des gens que ça frustre quand on fait des anglicismes et il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte. Non seulement, bien sûr, à quel point la tech est pleine de termes anglais. Moi, j'essaye toujours d'utiliser les termes français ou dire les deux un minimum, mais je fais un effort vraiment conscient pour ça. C'est presque un acte militant, tu vois. Mais il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte quand on vit dans un pays étranger ça, et qu'on n'utilise pas le français tout le temps, à tout moment, dans tous les contextes. Mais ça part, quoi. Ça finit vraiment par...
Surtout depuis 22 ans, quand même. C'est pas comme si j'étais arrivé la semaine dernière, quoi. Et donc, effectivement, en plus, il y a tout un pan de ma carrière en tant qu'investisseur que je n'ai pas fait en France. Et donc, les termes anglais que j'utilise au jour le jour, je connais même pas les équivalents en français. Donc, c'est pas une question de snobber les gens ou quoi que ce soit. Je connais pas les mots.
Ouais,
Je t'oublie, quoi. tout, l'orthographe, machin. Ma mère me dit que mon orthographe est absolument pourri.
Ça, tu peux utiliser l'excuse de vivre aux États-Unis alors que l'orthographe était toujours mauvaise, en fait. C'est possible aussi. Mais c'est comme Benoît, il se souvient plus des termes français, il parle suisse, lui. Donc, avec l'habitude, forcément, ça suffit.
Alors, on sent le ou bien, on sent la personne qui connaît le ou bien.
Non, à Genève. Donc, je parle suisse aussi.
Ah, c'est beau. T'as vécu à Genève ?
Non, mais j'ai mon patron, quand j'étais encore chez Reuters, était à Genève. On dépendait de la filiale de Genève pendant très longtemps et donc j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps en Suisse.
D'accord, très bien. Bon, bah, écoutez, on fera peut-être un épisode un jour où chacun fait un accent différent. Moi, je pourrais faire un accent japonais, tiens. J'ai vécu un peu au Japon. Je peux parler avec l'accent japonais. Je suis très, très bon pour faire les accents. Sinon, je peux vous faire l'accent de mon pays aussi. Je peux vous faire l'accent libanais. Il est très bien, l'accent libanais. Il est sympathique. Bon, OK. Si on parlait tech un petit peu, tiens, j'ai une super idée. D'autant plus qu'il y a... Allez, on va parler un petit peu de Twitter. Non, mais je peux faire l'accent libanais, je viens de là-bas. Donc, ça va, c'est pas trop offensant. Donc, Twitter et Elon Musk, la saga continue. Il y a vraiment des choses inattendues qui se sont passées. Alors, vous vous souvenez, la semaine dernière, on en parlait déjà. Et déjà, à ce moment, c'était un petit peu WTF, pour parler en bon français. Puisque Twitter, Elon Musk, depuis des semaines, je fais un petit résumé des épisodes précédents. Hein, il faudrait l'effet sonore de les experts. Mais Elon Musk faisait des plaisanteries, des suggestions sur l'idée qu'il allait... est-ce qu'il devrait racheter Twitter, machin ? Bon... Il y a quoi, 2 semaines, il a mis la parole à exécution, ou plus ou moins, il a acheté environ 10% de Twitter, et ça a été une énorme surprise. À ce moment, Parag Agrawal, le CEO, le président de Twitter, annonce que Elon Musk va rejoindre le board, et pour qu'il rejoigne le board, il y a entre parenthèses une petite condition qui est qu'il ne peut pas acquérir plus de 14,9% de la société. Donc c'était un moyen de le ramener dans le du côté du board pour qu'il soit pas plus agressif dans ses rachats. Après ça, alors on en parlait il y a une semaine, tout à coup on annonce que en fait non. Changement de programme, il ne va pas rejoindre le board. Et Agrawal mettait une petite mention du fait que, oui, il y a une histoire de background check, responsabilité fiduciaire envers la société et les actionnaires, et que du coup, Elon Musk ne pouvait pas, n'avait pas le droit de dire des choses négatives ou dommageables à la société. Ce qu'il avait déjà commencé un petit peu à faire, à moitié en trollant, à moitié en shitpostant, comme il a l'habitude de le faire. Et on s'était arrêté là. D'ailleurs, Cédric nous disait, ce qui était à vrai dire assez crédible, Elon Musk, il a d'autres choses à foutre que de se mettre à racheter Twitter. Il doit diriger Tesla, il doit diriger SpaceX. Bon, il a d'autres choses à foutre. Mais il se trouve que moi, j'étais un petit peu moins convaincu qu'il n'avait pas des plans, maléfiques derrière la tête, en bon troll qu'il est. Moi, je vous avoue que je suis extrêmement partagé sur le personnage. On en reparlera peut-être. Mais autant il est évidemment important pour les industries dans lesquelles il est rentré, au moins l'automobile et l'espace, les voyages spatiaux, autant il est quand même en train de devenir un troll... je ne vais pas dire dangereux, mais un petit peu néfaste, quoi. Bref, on avance de quelques jours. Après l'épisode qu'on a enregistré la semaine dernière, Elon Musk fait l'annonce la plus « what the fuck » de cette saga. Il annonce qu'il veut racheter l'intégralité de Twitter au prix par action de $54.20. Entre parenthèses, 420, c'est un code pour le cannabis. Et c'est un truc qu'il a utilisé par le passé, mais bon, c'est encore un truc un petit peu trollesque. Et il voudrait donc racheter la société pour $43 milliards. C'est pas juste qu'il l'a annoncé sur Twitter, hein. Il a fait une annonce publique d'achat, il a proposé le rachat au board, et le board doit ensuite l'accepter ou le refuser. On précise également... 43 milliards, ce n'est pas qu'il les a dans la poche. Hein. Bien sûr, c'est l'homme le plus riche du monde, donc il peut les obtenir, mais il faudrait qu'il vende des actions Tesla ou alors qu'il emprunte l'argent. Ce n'est pas impossible, ce n'est pas une formalité non plus, ce n'est pas trivial, mais ce n'est pas qu'il peut immédiatement, sans même y réfléchir, sortir les 43 milliards. Autant les 10% ou les 9,2% qu'il avait acheté, ça ne semblait pas être trop compliqué, autant pour sortir tout le reste, ça allait un petit peu plus. Le board reçoit cette nouvelle, y réfléchit, lance la poison pill, la pilule empoisonnée, qui est une mesure que prend le board. Je vous avoue que je ne suis pas un super expert, mais en gros, ça empêche un investisseur ou un actionnaire d'acquérir plus de 14,9% de la société. Donc en gros, ça devient adversarial, leur relation. Le board n'accepte pas l'offre d'Elon Musk. Et ils disent, bah, si tu veux racheter, il va falloir que tu ailles trouver les actions toi-même et peut-être payer un petit peu plus, etc., etc. Le board ne recommande pas la vente à Elon Musk. D'un côté, on a également un autre actionnaire qui dit « Mais moi, j'avais 10,30%, j'avais plus que Elon Musk, donc il faudrait peut-être écouter ce que j'ai à dire aussi. » Il y a une société qui semble-t-il, un fonds qui semble-t-il serait en train de travailler avec Twitter pour faire une offre contre celle de Elon Musk. Elon Musk qui parle potentiellement à des investisseurs pour racheter Twitter en partenariat. Elon Musk qui va ensuite dire qu'il pourrait peut-être ne pas être capable d'acheter Twitter, mais qu'il a un plan B. On a des commentateurs ici et là qui disent « Non mais Twitter... » Enfin, Elon Musk ne comprend pas la culture de Twitter et la difficulté de la modération. Sa définition de la liberté de parole n'a aucun sens parce que, il faut le rappeler, et je vais peut-être conclure là-dessus, mon petit résumé, l'une des raisons avancées par Elon Musk pour justifier l'achat de Twitter, c'est cette question assez mal utilisée de la liberté de parole, le freedom of speech. Il faut savoir qu'aux États-Unis, cette question est extrêmement contentieuse depuis quelques années parce que certains, en particulier dans des sphères libertariennes, quand on dit libertarien, pour ceux qui ne savent pas, les libertariens, c'est ceux qui veulent le moins de règles et de lois possibles. On n'est pas dans l'anarchisme, mais enfin, les résultats, souvent, on n'en est pas loin. Et ce qu'ils reprochent à Twitter, c'est de trop modérer la parole, notamment des personnalités publiques et politiques. Et ils voudraient un petit peu que tout soit permis, ou tout ce qui est, entre guillemets, légal, soit autorisé à dire sur Twitter. C'est souvent une interprétation un petit peu erronée du premier amendement de la Constitution des États-Unis qui dit que la liberté de parole est protégée, mais la liberté de parole est protégée contre le gouvernement. C'est-à-dire que le gouvernement ne peut pas censurer quelqu'un, ça ne dit rien sur ce que peuvent faire les sociétés privées. Et évidemment, les sociétés privées ont le droit, dans le cadre de la légalité évidemment, ont le droit de décider comment ils gèrent le contenu qu'ils produisent ou qu'ils hébergent, etc. Encore une fois, dans le cadre de la légalité. Et ça ramène à la question de Donald Trump, qui a eu le champ libre sur le réseau Twitter notamment, qui est devenu son porte-voix, avant son bannissement du réseau au lendemain de l'insurrection du 6 janvier au Capitole, dont on se souvient tous, je pense, qui a, on va dire, un petit peu montré la portée et la dangerosité de ce que pouvait dire Donald Trump. Et d'ailleurs, quand on parle de questions légales, en sous-texte, c'est un petit peu ce qu'on comprend de Elon Musk, qu'il voudrait que... alors, il ne le dit pas comme ça, hein, mais c'est ce qu'on comprend, que Donald Trump récupère son compte Twitter. Il s'en est d'ailleurs rapproché de Donald Trump, au niveau des idées au moins, depuis quelques mois, sur différents thèmes. Le truc, c'est que la raison pour laquelle il a été banni, c'était au moment de l'insurrection, au moment de l'invasion du Capitole, il avait à demi-mot appelé à presque continuer la violence, on va dire. Donc, légalement, il n'était pas du tout clair que c'était autorisé, ce qu'il était en train de dire. Bref, Tout ça fait un immense gloubi-boulga. Est-ce que Elon Musk va même, et même sérieux dans son offre de rachat, est-ce qu'il peut le faire? Qu'est-ce qu'il va faire avec? Il parlait d'open sourcer l'algorithme de Twitter pour préserver la liberté d'expression. Encore une fois, cette liberté d'expression qui est un petit peu interprétée de manière aléatoire par le camp de ceux qui ne sont plus sur Twitter. C'est difficile de s'y retrouver. Il y a un côté troll, un côté assez sérieux, parce que ça pourrait avoir des conséquences politiques et même géopolitiques assez importantes. Commençons par l'aspect un petit peu bourse-action. Et du coup, je vais me retourner vers Jeff, qui connaît bien ça, qui évolue dans les cercles de ces gens-là. Et qui rencontre Elon Musk au petit déjeuner du country club des gens très riches qui dirigent le monde, j'en suis sûr. qu'est-ce que tu penses?
Zoom, plutôt par Zoom depuis 2 ans, mais...
Oui, okay. Le country club Zoom des gens très riches. Comment tu l'interprètes, cette offre d'Elon Musk de racheter Twitter? Il est sérieux? Il troll? Qu'est-ce qui se passe?
Avec lui, c'est super difficile de savoir, d'accord? Donc, comme tu le disais, c'est le mec le plus riche du monde, donc pour lui, s'acheter 10% de Twitter, c'est pas grand-chose, donc il peut très bien se réveiller un matin, s'en gratter une et se dire, bah tiens, je vais acheter 10% de Twitter, et il a le cash, etc. Faut savoir qu'il avait une obligation de déclaration auprès des autorités boursières américaines, la SEC, quand il a atteint les 5%, il ne l'a pas fait. Donc il a déjà été attaqué par un ensemble d'investisseurs qui disent s'il avait annoncé qu'il avait acheté 5%, la stock Twitter aurait augmenté, l'action Twitter aurait augmenté, et donc on aurait bénéficié d'un meilleur prix sur le marché. Donc déjà, il a un problème légal de ce côté-là. Après, il y a eu cette espèce d'épisode bizarre où... il a été invité sur le board, Twitter a quasiment annoncé qu'il était sur le board avant que Elon officialise son acquisition, donc c'était super bizarre, il semblerait qu'il y ait eu des négociations qui se soient passées en catimini, et puis après, alors que tout le monde se disait, bah tiens, Elon sur le board de Twitter, c'est potentiellement positif, parce qu'il peut être une force de réflexion et de proposition en étant au board, mais après il décide de changer d'avis et de racheter Twitter.
Entre parenthèses, l'un des éléments dans cette discussion, c'est que Twitter est quand même assez, évolue très peu depuis de nombreuses années. Donc il y a beaucoup de gens qui se disent, Elon au board, ça les encouragerait à changer les choses, à faire évoluer le produit, et ça serait bénéfice pour le service, pour les actionnaires. Donc il y a ça qui rentre en ligne de compte aussi.
Sachant qu'aujourd'hui, sur le board de Twitter, il n'y a plus que Jack Dorsey qui fait partie de l'équipe initiale de Twitter, et donc les board members, les membres du directoire de Twitter, je suis vraiment beaucoup d'efforts, les membres du directoire de Twitter n'ont pas beaucoup d'histoire, d'historique, et n'ont pas beaucoup de Twitter, enfin d'actions Twitter. Donc en gros, avoir quelqu'un qui représente 10%, c'est vraiment significatif. Alors, derrière son espèce d'offre... Alors, le truc, il a pas fait une offre de rachat en tant que telle. Il a pas fait une tender offer, ce qu'on appelle une tender offer, où tu vas aux actionnaires de la boîte et tu dis, je vous rachète vos actions pour un prix de je sais pas combien. Il a été au board, il dit, voilà ma best and final, donc c'est mon offre, ma meilleure offre et mon offre finale. C'est un terme que tu utilises dans des négociations quand tu rachètes une boîte en disant, c'est la meilleure offre que je vais faire, donc voilà ma best and final. Mais je sais pas ce qu'il a envoyé d'officiel que le board, en fait, peut regarder. Donc, évidemment, il l'a mis sur... il l'a annoncé officiellement, il a un banquier qui travaille avec lui. Donc, il y a quand même un côté officiel. Comme tu le disais, il a largement de quoi acheter Twitter, mais... il faudrait qu'il le finance, parce qu'il n'a pas 43 milliards en cash, d'accord ? Il a vendu beaucoup de stocks Tesla l'année dernière pour payer ses impôts. Il a payé quelque chose comme 10 ou 12 ou 18 milliards d'impôts. C'est absolument monstrueux. Et donc, il faudrait qu'il lève de l'argent. Il y a eu un précédent il y a quelques années quand il avait annoncé que il voulait repasser Tesla dans le monde du privé avec un financement d'un gros fonds d'Arabie Saoudite.
Et ce qui lui a valu c'était une affaire qui s'est pas faite et ça lui a valu d'ailleurs des problèmes avec la SEC déjà à ce moment.
Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et donc c'est super confus. Donc le.
C'est-à-dire
le
que pardon Twitter, pour que je comprenne bien, c'est a priori une offre qu'il a envoyée en proposition au board de Twitter, mais il a pas commencé à racheter des actions évidemment. En plus, c'était pas une comment dire.
Il a ses 10%, il peut pas aller au-dessus, il a approché le board, mais le board ne peut pas accepter, c'est pas comme si le board pouvait dire, bah voilà, on vend Twitter à Elon Musk, il faut demander l'autorisation aux shareholders, aux investisseurs.
C'est-à-dire donc, que si le board dit, ok, ça nous va, à ce moment-là, ils disent, nous, on recommande cette vente, donc les actionnaires qui le souhaitent, ils peuvent vendre à Elon Musk à ce prix-là, c'est l'accord qu'on a trouvé. Mais ça ne veut pas dire que ça se fera, même si le board dit, ok, nous, on recommande ça. Ça sera très probable, non. Sans doute, mais c'est pas
normal. Non, parce que tu vas avoir des actionnaires qui vont dire, ça s'est passé récemment, où Zendesk voulait racheter la boîte qui s'appelle Momentive, qui fait le produit qui s'appelle SurveyMonkey. Et en gros, il y a des actionnaires qui se sont organisés pour rejeter l'offre de Zendesk. Et donc, même si le board de Momentive avait dit « Ok, on est d'accord pour vendre, les actionnaires vous votez », les actionnaires ont voté non. Mmh. Donc, c'est pas parce que Elon Musk veut racheter Twitter et que le board dit oui que ça va se passer.
D'accord. En plus, j'imagine qu'il faudrait que Musk sorte les 43 milliards, ce qui est très possible pour lui, mais qui n'est pas déjà fait, quoi. Donc ça pourrait aussi... Il pourrait aussi dire, en bon troll qu'il a, « Bah merde, je ne les ai pas trouvés. » Voilà, c'est donc ça tombe à l'eau. Bah,
il peut les trouver, il a le gus à 200 milliards, donc...
Bien sûr, mais je veux dire, une fois que le board accepte l'offre, ça ne veut pas dire qu'elle se fait automatiquement. Il faut encore qu'il trouve les 43 milliards, et à cette étape, il pourrait dire... Ah bah merde, finalement, je les ai pas. Et abandonner le truc.
Et puis, il faudrait signer un protocole d'accord. Il y aurait probablement une break-up fee. Donc, c'est si jamais tu ne trouves pas le financement, il faut que tu payes quelques milliards de pénalisation. Et donc, il y a énormément d'étapes qui n'ont pas du tout été faites. Il y a aussi, comme tu le disais, des offres potentielles. Donc, ce week-end, on a entendu que Thoma Bravo, qui est une énorme boîte de private equity, soi-disant on travaille sur un deal pour repasser Twitter en soit privé, soit racheter en fait une partie des actions. Donc c'est un gros bordel, c'est pas clair. Comme tout avec Elon, tu sais jamais si c'est du lard ou du cochon. Et ce qui est super surprenant, c'est que il est en train de mettre quand tu regardes les lois américaines au niveau rachat, annonce, disclosure, etc., il est en train de foutre un bordel pas possible, et il est probable qu'il se retrouve encore dans les petits papiers de la SEC, parce que il a forcément fait 3 ou 4 trucs qui vont le ramener devant les tribunaux.
Est-ce qu'il est possible qu'il soit en train de jouer à un jeu, un billard à 3 bandes, où au final, avec ses 10%, il va faire monter le prix de l'action, revendre et s'être fait quelques milliards dans l'affaire? Ou est-ce que ça serait... je ne sais pas si ça serait légal ou pas, la manière dont c'est fait est clé dans ces affaires, j'imagine. Mais est-ce que tu crois que c'est possible que ça soit en fait son truc, il s'en fout de Twitter ou il s'en fout de... Comme il l'a fait avec les crypto-monnaies c'est juste un moyen de faire confiance.
Du pump and dump, typiquement, ça t'emmène en taule. Hein.
Ouais, d'accord. Donc,
Et puis, il y a peut-être une chose. Hein, il faut quand même revenir à ce qu'il a dit, lui. Il a été interviewé là-dessus. Hein, il était à TED récemment.
Tout à fait.
Et il a indiqué, il a dit, mon sentiment, c'est qu'une plateforme publique qui bénéficie de la confiance de tout le monde est extrêmement importante pour l'avenir de la civilisation. Et donc, il a rajouté, après, je m'en fiche de l'aspect économique. Alors, on peut le croire ou pas, mais ce narratif d'Elon Musk pour le côté aller sur Mars, etc., la survie de la planète, Il y a quand même un truc en toile de fond que je trouve assez intéressant puis qu'il faut relever. Même chose quand tu dis le côté free speech, il est un peu n'importe quoi.
Et un peu galvaudé aux États-Unis en particulier. C'est difficile de le percevoir d'ici, parce que si on dit liberté de parole, bah, qui peut être contre ? Mais vraiment, aux États-Unis, c'est un problème sociétal important. Qu'est-ce qu'il est acceptable et qu'est-ce qu'on peut juste dire, d'autant plus qu'ils n'ont pas les mêmes règles sur la liberté de parole, enfin, sur ce qu'on peut dire là-bas qu'on a ici. Il y a des choses ici qu'on ne peut juste pas dire. Ce n'est pas la même chose là-bas.
Et je rajouterais quelque chose, toi, parce que tu dis, oui, la Constitution, comme tu dis, au niveau des États-Unis, c'est vrai, mais au niveau des États, ce n'est pas vrai. Et il y a un cas, alors pour les personnes qui s'intéressent, qui s'appelle Pruneyard Shopping Center versus Robbins. Pourquoi c'est important, vous savez, aux États-Unis, ça se passe comme ça. On va voir les cas qui étaient présentés avant.
Mais c'est de la jurisprudence. Mais ça se passe beaucoup par la jurisprudence. Juste, excuse-moi, j'interromps beaucoup, mais j'explique vraiment. En France, on a une législation qui essaye de prévoir tous les cas. C'est une manière de voir un petit peu différente. Aux États-Unis, ils établissent les grands principes. Et ensuite, c'est la jurisprudence, donc les cas qui ont été jugés auparavant, qui établissent les détails des lois. Donc, c'est une manière d'envisager les lois qui est un petit peu différente. Et c'est pour ça qu'on parle souvent de machin versus un tel, truc machin versus bidule, parce que c'est cette jurisprudence qu'on va aller voir pour déterminer si, oui ou non, ça s'applique à tel cas précis. Donc, en l'occurrence, oui, toi, tu parles d'un de ces cas.
C'est ça. Et dans le cas présent, donc c'est Pruneyard versus Robbins, ce qui est intéressant, très très rapidement, hein, c'est un agent de sécurité qui a dit à des étudiants qui voulaient faire signer une pétition dans un mall, un centre commercial, de partir. Et ils ont attaqué devant l'État de Californie, hein, pas au niveau fédéral, en disant que leur droit à la liberté d'expression avait été violé, et ils ont gagné. Et c'est là où on voit tout à coup, toi, le lien que tu fais en disant, évidemment, le centre commercial, c'est un endroit complètement privé. Donc, tout comme Twitter, on pourrait dire, mais attends, hey, c'est mon centre commercial, jusqu'à nouvel ordre, je fais ce que je veux ici. Toi, je n'ai pas envie que tu parles, tu dégages. Eh bien, pas vraiment. Et ça, je pense que c'est des fois ce qu'on a un petit peu de peine à comprendre aussi. Et comme d'habitude, évidemment, c'est l'État de Californie. Donc, toi, ce n'est pas le Wyoming. Donc,
On est plutôt dans un État qui est libéral, enfin, dans le sens américain, c'est-à-dire plutôt à gauche dans le paysage politique américain.
Oui, mais surtout que le pas de dire « Ah, mais toi, je suis sur Twitter, je fais ce que je veux », c'est quand même supporté. Ce n'est pas que l'État qui n'a pas le droit de t'interdire la liberté d'expression. Il y a des précédents qui disent que des sociétés privées doivent quand même te laisser ton droit à la liberté d'expression. Et ça, je pense que de temps en temps, on sous-estime un peu.
Ce n'est pas la même chose. C'est une plateforme, c'est une boîte de médias, et donc le problème du free speech, c'est que c'est un ensemble d'approches et de lois super complexes au niveau État, au niveau fédéral, puisqu'il y a les deux niveaux aux États-Unis. Et en fait, aujourd'hui, quand on parle de free speech, de liberté de parole, c'est en gros, ça veut dire je veux empêcher les autres de parler, d'accord ? Donc c'est la droite qui veut empêcher la gauche de parler, c'est la gauche qui veut empêcher la droite de parler. Et donc la peur de tout le monde, c'est que Musk prenne la charge de Twitter et instantanément remette Trump sur la plateforme, ce qui serait une catastrophe. D'accord ? Donc en gros, il y a deux choses. Un, c'est qu'est-ce que ça veut dire ? Et il y avait, je ne sais pas si vous avez vu ce thread super long de Yishan Wang, qui était super l'ancien CEO de Reddit, qui a en gros expliqué que Elon n'avait strictement aucune idée de ce que ça veut dire de faire tourner une boîte comme Twitter et que la complexité de créer des règles qui fonctionnent quasiment dans tous les cas pour une plateforme de plusieurs centaines de millions d'utilisateurs comme Twitter, c'est infernal. Et en gros, que disait Yishan, et il a géré Reddit, qui est aussi un cesspool, ça je sais pas comment ça se dit en français.
C'est un petit peu le... Comment dire,
merdier. Bon,
c'est un petit peu un merdier, oui, on va dire ça comme ça, voilà.
Et donc, il a expliqué de façon assez éloquente que Elon n'avait strictement pas réfléchi à ce que ça voulait dire, et qu'il ferait probablement pas un bon boulot, parce que c'est un mec qui est exceptionnel, c'est probablement le meilleur entrepreneur que la Terre ait jamais vu, avec ce qu'il a déjà réalisé, mais il n'a pas réfléchi à ce que ça voulait dire. Donc, en gros, il s'est réveillé, il a dit « je vais acheter Twitter », mais il ne sait pas ce que ça veut dire. Et dire « on peut faire en sorte de... » Genre, faire un open sourcing de l'algorithme, c'est complètement débile. D'accord ? Ça veut strictement rien dire. Donc, moi, j'ai parlé avec des copains qui ont passé beaucoup d'années chez Twitter, et les mecs, ils disent « oui, bah, il ne sait pas ce qu'il fait, quoi. » Donc, je pense que... Je me suis plaint depuis des années que Twitter n'a pas innové suffisamment au niveau produit. Où est ma fonction d'édit que je demande?
Alors, ils ont annoncé qu'ils y travaillaient, donc ça va peut-être arriver.
Donc, je vais garder mes actions pour voter contre le rachat de Twitter par Elon. Mais objectivement, le boulot de faire la police dans le contenu de Twitter, c'est un boulot inhumain. Et je pense pas que Elon ferait un bon boulot. Alors après, tu as cette fantaisie des milliardaires ou des multimilliardaires, des super riches, d'avoir donc leur participation dans le monde du média. Donc on a vu Jeff Bezos racheter le Washington Post, on a vu Lauren Powell Jobs, l'ancienne femme de Steve Jobs, prendre la majorité de The Atlantic. Donc c'est pas nouveau d'avoir donc ces gens qui sont super riches, d'avoir un impact dans le monde des médias, mais bien souvent, c'est plus d'offrir des ressources financières et de laisser la partie éditoriale complètement indépendante. Alors que Elon, lui, veut faire le contraire. Il se fout des économiques de Twitter, donc ça veut dire que, en gros, il est prêt à financer Twitter pour les années qui viennent, parce qu'il dit, de toute façon, je m'en fous de la pub et je m'en fous du revenu, mais, je veux dire, les milliards que dépense Twitter, faut bien que quelqu'un en fait paye la facture, mais il veut mettre les pieds dans la partie éditoriale et dans la partie liberté de parole, ce qui serait un désastre.
Alors, il y a un élément qu'on a évoqué à demi-mot qui a quand même qui est une partie importante de cette discussion, c'est que ce que disent beaucoup de gens, c'est que Twitter, c'est devenu de facto la place publique sur Internet. Et que du coup, la parole ne devrait pas être prise à certains, parce que si on leur prend la parole, eh ben, ils ont plus c'est pas juste qu'on leur enlève la parole dans le contexte d'une société privée, c'est la place publique. Donc, c'est une vraie censure au-delà de la société privée elle-même, ce qui touche à ce que vous avez dit un petit peu tous les deux. Et c'est une idée que je comprends, même si Twitter est un réseau qui est relativement modeste par rapport aux autres, eh ben c'est là qu'on va communiquer au monde beaucoup plus qu'ailleurs, de manière publique et ouverte. D'ailleurs, on l'a vu, quand Donald Trump s'est fait sortir du réseau, ben il est un petit peu... Alors, je ne vais pas dire qu'il a disparu de la vie publique, parce que ce n'est pas vrai, il a encore le contrôle du, plus ou moins, du Parti républicain, et on parle beaucoup de lui dans les médias, mais il est moins présent. Je pense que c'est assez indéniable. Le truc, quand tu dis Elon Musk ne comprend rien à Twitter, c'est vraiment édifiant parce que tous ceux qui ont gérer...
J'ai pas dit il comprend rien à Twitter. Il ne comprend pas la complexité de réguler et de modérer la plateforme.
Oui,
ça, c'est ce que j'ai dit. Je pense qu'il comprend Twitter.
Non, évidemment. Ce que je voulais dire, c'est que les enjeux de la modération sont vraiment importants, d'une part par leur complexité, parce que oui, l'idée, il faudrait que tout le monde y ait accès, ok, super, et il précise bien, même lui quand il le dit, dans le contexte de la loi, c'est-à-dire tant que ce que tu dis est légal, et bah, on a le droit de le dire. Ok, mais du coup, ça veut dire que mécaniquement, c'est... Twitter qui va devoir décider de ce qui est légal ou pas. Ou alors, il va dire « Bah non, nous, tant qu'on n'a pas une décision judiciaire, on n'enlève pas de contenu. » Et du coup, vous pouvez tout à fait imaginer en quoi ça transforme un réseau de dire « Bah, il faut qu'un juge nous ait dit d'enlever un contenu pour qu'on l'enlève. » Ça veut dire que toutes les choses les plus infâmes, et je ne parle pas uniquement de l'extrême droite américaine, mais de toutes les choses les plus infâmes, littéralement, qu'on puisse imaginer, dans tous les domaines, va vivre sur le réseau, parce que, on l'a expliqué pendant des années dans nos discussions sur les réseaux sociaux, on ne peut pas mettre un juge derrière chaque tweet, ou derrière chaque site, et derrière chaque commentaire, ça ne marche juste pas, ce n'est pas possible. Donc, idéalement, il faudrait. En pratique, on vit dans le monde réel et ce n'est pas possible. Et l'autre chose qu'on voit, c'est que oui, idéalement, il faudrait que les grands responsables politiques aient accès à cette place publique. J'entends cet argument. Mais ce qu'on voit comme conséquence avec la présidence de Donald Trump, c'est le paysage politique américain a sombré non seulement dans une division encore plus grande que ce qu'on a vu ailleurs. Si vous pensez qu'on est divisé en France aujourd'hui, et dans votre pays, même si ce n'est pas la France, je peux vous assurer que ça n'a rien à envier. Enfin, au contraire, que les États-Unis n'ont rien à vous envier. Au contraire, ils vont beaucoup, beaucoup plus loin. C'est devenu complètement impossible de se parler. Et Donald Trump, pour toute sa légitimité de 45e président des États-Unis, c'était de l'huile sur le feu chaque jour. Et il continue à le faire d'ailleurs. Donc oui, en théorie, très bien, la théorie, elle tient peut-être, mais dans la pratique, ça serait, comme le disait Jeff, un retour de Donald Trump sur cette plateforme, c'est dangereux pour le pays, c'est certainement ce que souhaiteraient certains dictateurs parce que ça les arrange, c'est dangereux pour le pays et c'est dangereux au-delà des États-Unis eux-mêmes parce que ça a des conséquences géopolitiques énormes. Et c'est la militarisation de la communication. Et donc, il est gentil, Elon Musk, à dire « Oui, il faudrait que ceci… » D'ailleurs, entre parenthèses, il y a plein de choses qui seraient jugées illégales, que certains disent, et donc ça pourrait les faire disparaître quand même. Mais à côté de ça, tout le merdier, tous les égouts de toutes les idées que vous pouvez imaginer… Ça pourrait également devenir le quotidien de Twitter. Et l'ancien CEO de Reddit que tu mentionnais l'explique bien. D'autres ont dit également, Elon Musk, il vient d'un monde et d'une génération où Internet, c'était la liberté. C'était une époque où on avait des conservateurs chrétiens américains qui voulaient interdire les jeux vidéo, interdire Donjons et Dragons, etc., etc. On allait sur Internet et ben, on pouvait dire ce qu'on voulait. Et on était un petit peu en marge de la société, c'était un petit peu un domaine secret, caché, que la société ne connaissait pas. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pas du tout la même chose. D'une part, on n'a pas forcément les mêmes préoccupations au niveau de la censure, et d'autre part, bah, Internet, c'est le vrai monde, c'est le monde de tout le monde. Donc, l'idée, oui, l'Internet, c'est l'espace de liberté qu'on doit avoir, qui est peut-être encore dans son cerveau à Elon Musk, ça ne s'applique plus de la même manière, parce que tout le monde est sur Internet, et tout le monde dit tout ce qu'il veut, et s'il n'y a pas un minimum de modération, c'est immédiatement la merde. Donc, là où...
Ouais, mais à ça, tu vois, je pense
toi,
que...
Fais-toi,
non, mais...
fais-toi.
Voilà, ouais.
Merci.
Cette fois, je vais le faire parce que je pense que dès qu'on se réjouit de virer du monde une plateforme, quelle qu'elle soit, où ils peuvent parler, en même temps, il faut qu'on soit en tout cas aussi nerveux que ce qu'on est réjoui. Parce que si on pense qu'on va résoudre quoi que ce soit en faisant ça, à mon avis, on est dans l'erreur. C'est pas si on regarde même ce qui s'est passé pour les élections françaises dans les réseaux, c'était extrêmement polarisé. Et je crois pas que si on enlevait accès à un parti quel qu'il soit, on arriverait à quoi que ce soit. Donc, je pense que alors quand il y a des abus clairs,
pas tout à fait
comme
comparable
dans le cas,
avec ce qu'a provoqué Donald Trump, c'est pas vraiment comparable. Mais pardon, continue.
Non, mais d'accord, mais toi, tu prends un cas, mais il y a énormément d'autres cas aux États-Unis. Et c'est vrai que tu peux comprendre comment les républicains arrivent à penser qu'il y a une attitude systématique contre certains de leurs membres. Et ça contribue à un climat délétère. Et donc, on n'arrive pas. Donc, la question de fond de dire...
Tu sais,
quand il y a des problèmes
de... Quand tu dis des choses inacceptables et quand tout ton parti dit des choses inacceptables... Bah, au bout d'un moment, c'est normal que ça soit toi qui sois plus visé. Je suis désolé de t'interrompre, mais c'est une idée qui est « Ah bah oui, mais c'est tout le temps sur nous qu'on tape. » Bah oui, mais c'est tout le temps vous qui dites ces trucs. Tu vois, c'est pas une injustice parce que c'est toujours le même camp sur lequel on tape, quand c'est toujours le même camp qui dit des trucs sur lesquels il faut taper. Je suis pas vraiment de cet avis, mais...
Mais c'est pas sur le fond de ce qu'ils disent, toi. C'est sur le fait de dire on va l'empêcher de le dire.
C'est ça le problème.
Mais oui, c'est le fond le problème.
Trump a complètement radicalisé En gros, Trump a ouvert la boîte de Pandore en termes de communication de ce qui est permis, et tout le monde du côté républicain essaie d'être plus Trump que Trump, et donc va sortir des horreurs finies. Et c'est pour ça que là où il y a encore une vingtaine d'années ou une quinzaine d'années, il y avait un discours relativement posé entre les deux camps, aujourd'hui c'est devenu la guerre. Et objectivement, quand tu vois ce que raconte Marjorie Taylor Greene ou
c'est un exemple extrême, celle-là, mais c'est sûr qu'elle est, oui, elle est là.
On dit toujours c'est extrême, ben oui, mais le problème c'est que les républicains l'ont pas viré. Ils continuent à la supporter. Et donc aujourd'hui, si tu veux mettre en place des règles où tu laisses les gens s'exprimer, mais il y a quand même des barrières, et ben les républicains passent leur temps à triper les barrières. Et Trump a littéralement appelé à une insurrection et à ne pas respecter les règles démocratiques de passage de pouvoir après une élection. Donc, le fait que Twitter
décide... Il ne faut pas oublier, encore une fois, pour que les gens comprennent bien le contexte. Encore aujourd'hui, Donald Trump affirme qu'il a gagné l'élection, qu'elle lui a été volée, et il y a une bonne partie, malgré son absence de Twitter, il y a une bonne partie des électeurs républicains qui croient que Joe Biden n'est pas le président des États-Unis. On est à un extrême, tu vois, c'est pour ça qu'on ne peut pas juste dire « Ah bah oui, mais c'est toujours sur recomptable. » Et je suis désolé, Benoît, on t'a interrompu. Je comprends l'idée qui sous-tend ton raisonnement, mais à un moment, il faut la confronter à la pratique aussi. On est dans un pays, enfin, les États-Unis sont un pays où il y a une énorme partie de l'électorat d'un des deux grands partis qui croient qu'ils ont gagné l'élection alors qu'ils l'ont perdue. Tu vois, c'est sérieux, c'est la démocratie entière qui est en danger avec ce truc. C'est pas juste, ah bah il a dit, moi j'aime pas les Noirs sur Twitter, même si déjà, tu vois, c'est des trucs qui passeraient pas chez nous. Donc, je te laisse continuer, Benoît, mais je crois qu'il était vraiment important de rappeler que c'est pas juste, ah bah c'est toujours sur nous comptables, c'est pas anecdotique, quoi.
Non, c'est clair, mais je pense que justement, le point il est assez simple, je n'ai pas besoin d'aller beaucoup plus en avant, mais c'est de se dire qu'à un moment, le fait d'exclure, c'est une mesure extrême qu'on doit prendre de manière ciblée, mais c'est perdu d'avance également, tu vois, c'est pas que tu as résolu quoi que ce soit. Donc, à mon avis, à un moment, tu dois revenir quand même à l'autre côté en te disant, attends, j'ai une plateforme qui doit être ouverte à tout le monde. Et puis, comment tu fais ? Alors, ça peut être de manière algorithmique. Moi, j'aime bien ce qu'ils font quand ils commencent à expliquer dessous, en disant, attention, maintenant, avec la Russie, on dit, attention, ça, c'est un média russe. Attention, ça a été dit ailleurs. Je pense qu'on a quand même d'autres outils.
Non, mais ça marche pas.
Attends, on l'a testé. C'est quoi comme attitude ? Bah, on l'a testé. Bon, on va tester d'autres choses.
Non, bien sûr. Non, mais cet élément précis dont tu parles, l'élément précis, mettre un label en dessous, dire ah bah attention, c'est un média russe, attention, cette information a été contestée par la communauté scientifique. Le simple fait de mettre le label, on l'a testé pendant des années, on s'est rendu compte que ça ne marche pas. Le truc qui marche et qui accompagne généralement ces labels, c'est le fait de réduire la diffusion de cet élément, donc que ça soit un tweet ou un post sur Facebook. Donc, ce n'est pas juste mettre l'information à côté du contenu qui est partagé. Ce qui fonctionne, c'est de réduire la portée de la chose. Donc, il y a une action du réseau qui va limiter, donc, d'une certaine manière, dans le contexte du réseau privé, censurer cette information. Sinon, elle se diffuse et elle gagne des partisans, même si elle est fausse ou dangereuse ou ce que c'est. Donc, quand tu dis « Ah ben moi, j'aime bien quand on informe », oui, idéalement, on l'a testé, moi, j'aimais bien cette idée aussi, mais on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas. Les gens y croyaient quand même avec le label. Voire même, parfois, ça les enflammait plus et du coup, ils se mettaient à être encore plus, tu vois, encore plus véhéments sur le truc quand il y avait le label. Donc, le fait de dire « Ah ben moi, j'aime bien quand on nous met l'information », si ça marchait, ça serait cool. Mais dans la pratique, ça ne marche pas.
Ouais, mais on est d'accord. Il faut trouver d'autres... plus, toi, tu ne vas pas résoudre d'une seule façon. Mais je crois que si on se pense qu'empêcher l'accès à la parole de certaines personnes, c'est une solution, ça peut être un patch, ça peut être temporairement ce qu'on doit faire le temps qu'on trouve quelque chose. Mais à terme, ça va pas jouer. Et je pense que vraiment, quand on le fait, on doit pas se réjouir. Ça va être quelque chose qu'on fait avec gravité et puis de se dire, il est en train de se passer un truc de vraiment très, très faux et il faut qu'on agisse. C'est plutôt ouais. ça c'est, mon
c'est
point.
Je pense que c'est ce qui s'est passé, oui.
Qui s'est passé ouais. quand ils ont retiré Trump de la plateforme. Je veux dire, c'était pas... Ils voulaient pas. C'est pas...
Et personne.
C'est pas mais... un truc que Twitter voulait faire. Mais c'est... Ce qui s'est passé le 6 janvier était non, tellement grave qu'il a dépassé les bornes. Et le nombre de fois où il aurait dû être viré de la plateforme, et, on peut même pas le compter parce qu'il arrête pas. Mais là, c'était une insurrection. Je veux dire, c'était une insurrection.
Et là...
Et on va voir... Et on va voir si il se retrouve devant la justice, parce que en gros là, on est sûr que les chambres vont changer de côté au mois de novembre, et donc le comité qui est en charge d'étudier ce qui s'est passé en le 6 janvier et de faire des recommandations au département de la justice est en train de finaliser son
rapport.
Son rapport, et on verra ce qui se passe pour Trump. À mon avis, il se passera rien, mais on verra bien.
Mais du peut-être, coup, c'est... Juste pour expliquer, et ça, c'est toi, un des insights de travailler au gouvernement. Sincèrement, nous, on voit hein, des fois, parce que dans un milieu où des fois, tu dis c'est comme ça, tu vois. On a des lois, on a des choses. À terme, quand tu commences à avoir trop de ce type d'approche, typiquement en excluant ou en disant c'est pas possible, etc., Tu crées des problèmes et tu crées des situations qui t'échappent. Et donc, moi, c'est pour ça que je suis très nerveux de se dire, ici, on est en train de limiter, on laisse ça dans les mains de sociétés privées. Oui, maintenant, c'est tout ce qu'on peut faire. À terme, sincèrement, je pense qu'on est en train de se préparer encore plus de divisions en faisant ça, quoi.
Alors, on rappellera que la personne la plus outrancière du Parti républicain, Marjorie Taylor Greene, qui est vraiment des choses invraisemblables, elle est encore sur Twitter.
Il y a des graves. Hein. C'est vrai. Après, il faut avouer. Il y a franchement des gens, tu te dis, mais... c'est ça. Mais c'est là où il faut se battre. Il faut se dire, mais comment est-ce qu'une personne aussi incroyablement stupide... peut être là, mais en même temps, tu vois, il faut qu'on trouve les ressources en se disant, à un moment, il faut quand même se battre pour qu'elle soit là, quoi.
Alors, et c'est oui, dur. Mais tu vois, c'est ce genre de logique, et je suis désolé d'arriver au point Godwin, mais c'est ce genre de logique qui va t'amener à défendre l'accès, et on parle des États-Unis, on n'est pas en France, en France, c'est interdit, ouais. Mais l'accès à Twitter à un parti national socialiste allemand, tu vois. Le parti nazi, il aurait pu, et d'ailleurs on a des extrêmes à droite, qui sont en train de dire, et c'est même pas qu'ils sont en train de dire, c'est ce qui se passe souvent aux États-Unis, c'est des suprémacistes blancs, qui sont en train de dire, voilà, on nous vole notre liberté de parole. Et on pourrait dire, ah oui, mais c'est une question légale, en France et en Europe, le cadre légal est beaucoup plus restrictif, donc c'est peut-être plus facile pour des sociétés comme Twitter de dire « Ah ben, on regarde la loi, là, ça colle pas, donc même si on n'a pas de décision de justice, on peut retirer le contenu. » D'ailleurs, ils en ont l'obligation aujourd'hui. Mais aux États-Unis, c'est pas aussi clair, et c'est un problème nouveau qu'on n'avait pas à une époque où il y avait un certain filtre avec des médias, qui étaient il y avait une certaine structure nécessaire pour communiquer. Eh bien, aujourd'hui, il n'y a plus cette structure. C'est une situation nouvelle où ces idées se répandent si on ne les déranque pas, tu vois, si on ne les shadowban pas.
Ouais, mais c'est... Alors là, je pense qu'effectivement, il ne faut pas qu'on rentre dans ce débat. Mais si tu regardes l'histoire très malheureuse du siècle passé... C'est le nombre d'interdictions des publications de presse de tous les côtés hein, était quand même très conséquente et tu vois que ça n'empêche rien et que c'est plutôt un signe que tu arrives au bout. Et c'est là où il faut être nerveux, tu vois.
Ouais, mais tu ne peux pas juste appliquer un framework du passé en disant ah, « bah, c'est la même chose, donc on doit laisser tout et n'importe quoi se dire sur Twitter ». Tu vois, parce que la conclusion logique de ce que tu es en train de dire, c'est ça.
Je pense pas. Je pense que, justement, c'est de mettre beaucoup plus d'efforts dans se dire comment on va le faire, que ce soit de manière algorithmique.
Mais qu'est-ce qu'on fait depuis 10 ans, Ben ?
Non, mais c'est,
C'est ce qu'on fait depuis 10 ans.
C'est ce qu'ils font depuis le début.
Oui.
Je veux dire, c'était le problème depuis le début.
Je crois que c'est ce qu'on disait avec l'histoire de Trump. Personne n'était content que ça soit la solution. Tout le monde, et moi-même dans cette émission, je dis depuis il y a des années, je disais « Ah mais non, il ne faut surtout pas donner les clés de la justice à Twitter. » C'est ce que je dis depuis des années. Enfin, c'est ce que j'ai dit pendant des années. Mais à un moment, je me rends à l'évidence, tu vois, il y a...
Pardon. Malheureusement, c'est parce que justement la loi n'est pas suffisamment bien définie, que c'est dans les mains de Twitter et de Facebook et des différentes plateformes que réside la décision de qu'est-ce qui est OK, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et donc, il y a ce nouveau Twitter de la droite, Truth Social, qui est un pétard foireux, qui n'était nulle part, parce que de toute façon, tu peux créer, ce que tu disais, c'est une echo chamber.
Une chambre d'écho, oui.
Écho, ça, ouais, mais ça veut rien dire, chambre d'écho. Une echo chamber pour les conservateurs. Mais ça suffit pas, parce qu'ils veulent, en fait, que le message soit accessible à tout le monde.
Mais du coup, donc, ça va dans le sens de l'idée que la place publique, c'est Twitter. Et que donc, c'est un truc qu'il faut protéger. Et pour préciser, par rapport à ce que tu dis, Benoît, je pense que Jeff et moi, et tout le monde sera d'accord pour dire, mais personne ne voudrait qu'on soit obligé d'interdire ou de supprimer des contenus ou de bannir des personnes. Ce n'est pas du tout la solution idéale, mais c'est la seule qu'on a. Parce qu'on a tout essayé. On a essayé des algorithmes différents. D'ailleurs, l'un des trucs, et on va revenir et conclure sur une heure presque d'Elon Musk, l'une des idées qu'il dit, c'est pas uniquement... Enfin, à vrai dire, c'est pas lui. Lui, il dit qu'il faudrait open sourcer l'algorithme pour que tout le monde voit ce qu'il y a dedans. Ça donnerait pas forcément toutes les infos parce qu'il y a énormément de contenu à trier, etc. Mais il faudrait open sourcer. D'autres disent, ressortent l'idée qui avait été évoquée il y a un moment, pourquoi pas avoir des algorithmes différents qu'on pourrait choisir. Genre, moi, j'ai mon algorithme qui privilégie les infos de musique, d'entertainment. Moi, j'ai des trucs qui me privilégient les trucs politiques ou qui classent différemment les trucs politiques et peut-être même que chacun crée ses propres algorithmes et les propose et qu'on ait un store d'algorithmes. C'est une idée qui n'est pas neuve, mais que certains ont sorti. Bon, je ne sais pas comment ça marcherait. Peut-être que ça serait une solution qui irait dans le sens de ce que tu dis, Benoît. Et encore une fois, avec lequel je pense qu'on est tous d'accord, on voudrait ne pas avoir à supprimer des contenus et bannir des gens.
Toutes les personnes qui ont bossé, tu sais, les algorithmes, c'est bien beau, mais c'est une toute petite partie de la recette. Je suis d'accord, je crois que Jeff l'a dit. Je ne pense pas que si on voyait l'algorithme de Twitter, on serait complètement à tomber de la chaise. Quoi. Je pense que c'est... Ouais.
Ouais. C'est pas qu'il y a un secret incroyable. Non, mais peut-être le fait d'en avoir d'autres qui pourraient vous permettre de choisir votre réseau et de vous mettre dans cette chambre d'écho, dans cette echo chamber dont parlait Jeff, où vous ne parlez qu'à des gens qui sont d'accord avec toi. Donc, il n'y a aucun outrage, aucune rage. Et donc, le plaisir est complètement absent. Parce que troller, c'est l'essence de Twitter. Bon, écoutez, on a fait beaucoup plus longtemps que je pensais parce que, au final, on a parlé d'Elon Musk et Twitter d'une part, mais ça a aussi ressorti le problème clé de Twitter et des réseaux sociaux dans leur ensemble. Donc, on a fait un tour d'horizon de tout ça et c'est vrai que le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas de bonne solution dans tout ça. Donc, on ne sait toujours pas quoi faire.
Ah, c'est la retenue, mais malheureusement, avec Trump, la retenue n'existe plus.
Ouais.
Et il a complètement changé la façon dont le discours politique se passe.
Ouais. Écoutez, on va quand même parler un petit peu de sujets tech qui ne sont pas Twitter et Elon Musk, mais je crois que Jeff va devoir nous abandonner. Parce que
malheureusement, c'est l'heure de mon prochain rendez-vous, donc j'écouterai le rendez-vous tech pour savoir ce que vous parlez, parce que maintenant je ne veux pas savoir. Et puis en fait, c'est ce que je veux laisser en conclusion, c'est vraiment un sujet qui n'est pas facile. Et je suis complètement d'accord que dans l'idéal, on ne devrait jamais interdire que ce soit d'utiliser des plateformes de communication, mais malheureusement, quand il y a des cas extrêmes, comme on le voit aujourd'hui, il n'y a pas vraiment le choix. Et pour être clair, je ne voudrais pas être le patron de Twitter, parce que gérer ça, c'est pas humain. C'est pas humain. C'est le genre de truc qui va te filer des cauchemars en permanence. Et il n'y a pas un montant d'argent qui me ferait prendre la tête de Twitter. La bonne nouvelle, c'est qu'il ne veut pas me le donner. Donc, ce n'est pas un problème.
Super. Bah merci beaucoup, Jeff. Bon courage. Et à la prochaine. Ciao. Oui, et puis le dernier truc que je dirais, moi, c'est que un réseau social sans modération, c'est juste pas possible. Donc, à partir du moment où tu es obligé d'introduire de la modération, parce qu'on sera tous d'accord, je ne sais pas, des contenus terroristes, des contenus pédophiles, bah, cela, il faut les modérer. Ouais. Et donc, tu as tout de suite introduit de la modération. Si tu n'en as pas, tu ne peux pas avoir de réseau social qui soit fréquentable. Donc, là, tu as introduit de la modération. Et donc, forcément, la question n'est pas où on va mettre la limite. Pardon, la question n'est pas est-ce qu'on va avoir de la modération, c'est où est-ce qu'on va mettre la limite de la modération. Et quand on dit « Ah bah, il suffit de faire ce qui est légal », encore une fois, ce n'est pas possible parce qu'on ne peut pas avoir... Dire ça, ça équivaut à ne rien supprimer avant d'avoir une décision de justice. On ne peut pas avoir sur, je sais pas moi, 12 milliards de tweets par jour, 12 milliards de décisions de justice, ou même ceux qui sont signalés, s'il y en a 1 million ou même 10 000 par jour, on ne va pas avoir une décision de justice sur 10 000 tweets par jour. Et donc, les trucs contentieux seront encore en ligne pendant très longtemps, donc ça équivaut à ne pas modérer. Donc, ce n'est juste pas possible concrètement.
Et puis légal, toi, ce qui est légal dans un État n'est pas dans l'autre. Typiquement, les médicaments, c'est un bon exemple. Pour prendre un truc qui est une zone grise, toi, est-ce que promouvoir un médicament, ça va ou pas? Et puis, il y a certains où les médecines alternatives, c'est accepté, d'autres où c'est quand même... Bref, c'est vrai que quand tu commences à regarder... Moi, j'avais un peu travaillé avec les équipes là-dessus quand j'étais chez Google... qui faisait la modération. Alors, à part les personnes traumatisées parce qu'ils voient des choses, c'est des héros et des héroïnes, ces personnes-là, hein, parce que franchement, waouh, quoi. Mais après, même dans les zones grises, c'est incroyablement compliqué. Donc, c'est vrai qu'on est d'accord. Le côté de dire, même si on était d'accord de dire, voilà, le légal, on fait un trait, le monde, il est pas... Même dans le monde légal, c'est pas si simple. Donc,
c'est ça, moi.
On est preneur, on va dire, à ta communauté... qui est quand même une communauté brillante, on est d'accord là-dessus. Hein. Il nous faut une solution. Vous avez une semaine.
On relève les copies dans une semaine. Mais tu sais, j'ai tweeté justement cette question de Elon Musk veut rouvrir la liberté d'expression sur Twitter. Ça serait catastrophique parce que il y aurait des choses inacceptables qui reviennent sur Twitter. Il y a des gens qui m'ont dit. Ah, mais il suffit de rendre les choses légales. Ben non, il ne suffit pas d'eux. C'est des grandes idées qui marchent sur le papier, mais dans la pratique, on l'a vu. Oui, ok, ce qui est illégal, est-ce que tu attends une décision de justice? Si oui, ça ne part pas avant, au minimum, des jours, des semaines, et du coup, le mal est fait. Donc non, tu ne peux pas juste faire ce qui est légal. Et si tu donnes à Twitter le soin de décider si ça colle suffisamment à la loi ou pas, eh ben, c'est un petit peu la solution à laquelle on est déjà arrivé maintenant. Donc on change quoi, en fait? C'est les grandes idées comme ça sont séduisantes, mais dans la pratique, on se rend compte très très vite, en pas longtemps, en 5 minutes de discussion, que c'est pas applicable en l'état. Ou alors, si on essaye de l'appliquer un petit peu sérieusement, on arrive plus ou moins à ce qu'on a aujourd'hui, la situation qu'on a aujourd'hui. Et même Donald Trump, à vrai dire, si on laisse Twitter décider, il est plus sur la plateforme vu ce qui s'est passé le 6 janvier. Donc on ne sait pas vraiment ce que ça donne quand on essaye de suivre le principe, ce que ça donne de différent.
Je pense qu'on est prêt pour la suite, effectivement.
Oui, tout à fait, tout à fait. Et la suite, c'est cette formidable communauté qui soutient l'émission sur Patreon. C'est ça, la suite. C'est les gens qui vont sur patreon.com/rdvtech et qui soutiennent le rendez-vous tech. Et qui ont un résumé en 1h30, allez, toutes les semaines, de toute l'actu tech, et qui l'ont sans pub, sans petite partie pour la pub, la promo Patreon ici, qui ont des contenus bonus, qui ont surtout le plaisir de soutenir un créateur qui fait quelque chose qu'ils apprécient, j'espère que vous l'appréciez, pour une somme modique. 1 euro, 2 euros, quelque chose de vraiment mesuré, de limité. Et vous soutenez le rendez-vous tech sur Patreon aussi longtemps que vous le souhaitez. Vous pouvez vous arrêter quand vous le souhaitez. Et si vous vous dites depuis un certain temps, bah Patrick, il est quand même assez cool dans son travail, il crée un podcast que j'apprécie, j'aimerais bien lui payer un petit café de temps en temps, j'aimerais bien lui payer une bouffe de temps en temps, bah vous pouvez aller sur patreon.com/rdvtech. Quand vous rentrez chez vous, vous mettez les clés dans le bol, ça fait cling, Patrick, et là, vous allez sur Patreon. Merci à vous tous et à vous toutes.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Alors, bon, je pensais pas qu'on ferait une heure dessus. C'est
tellement important, ouais. C'est tellement important je crois qu'on a surtout vu à quel point cette impuissance, elle est dure à vivre, en gros, pour tout le monde. Hein,
c'est vrai, c'est voilà. Bon, on parle de trucs un petit peu moins importants, comme par exemple Apple, Ethereum, l'Ukraine, tu vois, des trucs anecdotiques. Allez, on se lance dans le reste de l'actu avec Apple. On pourra plutôt Meta qui a décidé de, pour ses univers, son métavers, de permettre aux créateurs, je crois qu'on en parlait la semaine dernière, de permettre aux créateurs de créer des contenus à inclure dans le métavers et de les vendre, mais ils prendraient sur ces contenus 25% de ce qui reste de la somme après la commission de la plateforme, donc iOS ou Android. Et c'est vraiment, Apple s'est engouffré dans la brèche parce que du coup, ça veut dire qu'il resterait aux créateurs seulement 52,5% de la somme payée parce que Meta veut aussi prendre sa commission. Alors Apple, ils prennent la leur. Mais l'hypocrisie de Meta qui veut prendre sa commission aussi alors qu'il critique les 30% d'Apple depuis des mois et des années. Bon, Apple s'est engouffré dans la brèche, c'est pas si étonnant. Mais moi, ça m'a bien fait marrer aussi. Hein. C'est quand même une certaine forme d'hypocrisie. Bah oui, quand on a une plateforme, on essaye de l'utiliser pour générer des revenus sur les gens qui l'utilisent. Meta n'y est pas étranger. On verra s'ils changeront d'idée. Les MacBooks commencent à être encore plus en retard qu'avant dans les livraisons. Donc peut-être que les problèmes de Covid et de lockdown. Merde, comment on dit en français lockdown ? Aide-moi.
Benoît. Ah, je ne sais pas.
Lockdown en Chine commence à affecter la production de produits Apple, c'est possible. Et puis, il y a un article que je mettrai dans la newsletter sur patrickbeja.com, vous pouvez vous abonner à la newsletter, un article sur le travail de Johnny Srouji, qui est le responsable de la conception des puces M1. Vraiment hyper, hyper intéressant. C'est une interview du Wall Street Journal, enfin une interview et un compte-rendu, un rapport sur ce qu'il a dû faire pour arriver à concevoir ces puces. C'est hyper intéressant. Mais oui, donc les histoires de... Est-ce que tu crois que Apple est en train d'avoir des problèmes de production, ça semble probable.
Ce qu'il y a d'incroyable, plutôt, je trouve, c'est que Apple jusque-là n'a pas tellement eu de problèmes de production par rapport à tous les autres. Mmh. Et je pense que le coup de génie, alors qu'il y a été aussi un peu de chance dans le timing pour eux d'avoir leur propre chaîne de production, ça les a énormément avantagés. Et je pense que par rapport... Alors, c'est dur pour tout le monde, mais je pense que ça reste moins dur pour eux. Et donc, ils ont toujours cette espèce de petit avantage, j'ai l'impression. Évidemment, tout le monde préférait ne pas avoir ces soucis. Hein. D'ailleurs, les images du lockdown à Shanghai, c'est intense. Hein. Pour ceux qui ont vu, c'est vraiment, vraiment intense.
Mais ouais, c'est tout le monde chez soi, personne sort. Quand tu veux te faire livrer un truc, il y a des gens dans les immeubles qui sont désignés pour aller chercher et livrer les choses deux fois par jour. Et ils se mettent en combinaison
anti-nucléaire. Quoi.
Ouais, c'est ça, presque. Presque. Et c'est juste, tu sors pas. Voilà, c'est tout.
Ouais. Donc, disons que dans ces circonstances-là, évidemment qu'il y aura des problèmes. Je pense que de toute manière, c'est une des leçons qu'on a eues au long de ces deux dernières années. Hein, c'est que tout ce qui est supply chain, évidemment, c'est très compliqué à gérer dans des situations comme celle-ci. Le gros prochain qu'on voit arriver, et le point d'interrogation, c'est sur tout ce qui est nourriture et autres liés aux événements en Ukraine. Donc, on n'a pas fini de parler de... Et de nouveau, je ne sais pas comment on dit supply chain en
chaîne
français.
Chaîne voilà. D'approvisionnement, chaîne de... Oui.
Chaîne d'approvisionnement, oh, c'est bien ça, oh, c'est très beau, ouais, très bien.
C'est le grand génie de Tim Cook. Ethereum, ils ont encore retardé leur passage au Proof of Stake. Alors, c'était censé arriver en juin, vous vous souvenez, hein, le Proof of Stake, c'est cette méthode de validation des opérations sur la blockchain qui n'est pas énergivore, ou du moins 99% moins énergivore que la Proof of Work, la preuve de travail. Alors, c'était censé arriver en juin, à vrai dire, c'était censé arriver en 2020, la première fois. Ça a encore été décalé, mais ils continuent à penser que ça sera cette année. C'est vraiment notable parce que le jour où ça arrive, toute la blockchain Ethereum devient... Enfin, la problématique de consommation énergétique de la blockchain Ethereum, qui sous-tend tout ce qui n'est pas Bitcoin, en fait, on va dire ça comme ça, eh ben, la problématique énergétique aura plus ou moins disparu, ou en tout cas ne sera pas plus importante que n'importe quel autre projet informatique. Donc ça, c'est quelque chose d'hyper important.
Ça devrait et franchement, il faut lire, enfin, je suis Ethereum depuis les débuts, en 2016, ils parlaient déjà de passer au Proof of Stake. Hein. Donc oui. C'est pas qu'ils avaient des plans comme maintenant, où ils disent on sait comment on va le faire, mais c'était une vision depuis le début de le faire. Et c'est tellement intéressant, les discussions, si vous vous intéressez à comment on crée la confiance, à comment on arrive à gérer finalement un réseau, parce que oui, ça coûte, enfin disons, il n'y a plus de problèmes énergétiques, mais il n'y a aussi plus de coûts à créer. Disons que pour miner, eh ben, on est en compétition avec les autres, et puis il y a cette espèce de course aux machines les plus puissantes, il faut investir, donc ça a un coût qui disparaît quand même pas mal avec le Proof of Stake. Et on passe du pouvoir aux mineurs, au pouvoir aux personnes qui possèdent ici des éthers. Et ça, des conséquences derrière sont incroyables. Donc, franchement, ça vaut la peine d'aller lire, surtout ce que dit Vitalik Buterin là-dessus. Ça fait de longues années qu'il écrit là-dessus. Et ce n'est pas juste un problème technique, c'est vraiment beaucoup plus profond que ça, quoi.
En Ukraine, il y a deux choses qui se sont produites, enfin liées à la guerre en Ukraine. D'une part, l'Ukraine et certains de ses alliés ont rendu public des centaines de gigas de fichiers et des millions de mails sur l'État russe et sur les militaires russes. C'est-à-dire qu'il y a des noms, des adresses e-mail, des numéros de passeport, etc. Et c'est la première fois qu'il y a une opération de ce type dans le contexte d'une guerre. Donc c'est notable et ça va permettre évidemment aux enquêteurs et aux journalistes de faire leur travail, donc d'enquêter sur, on peut dire par exemple, la présence de tel ou tel type de troupes, régiments, etc., dans telle zone géographique, à tel moment, ce genre de choses. Donc c'est des informations qui vont être importantes pour la suite, pour les bilans, une fois que ça pourrait commencer à être fait de ce conflit. Et une autre chose qui est notable, c'est qu'en Russie, il y a des milliers de développeurs et de travailleurs de l'industrie tech qui ont quitté le pays, quelque chose comme 50 000 à 70 000 personnes qui sont déjà parties. Et les experts de l'industrie estiment que dans les mois à venir, il y en aura, les semaines et les mois à venir, il y en aura au moins autant qui vont encore partir, ce qui va complètement décimer l'industrie tech en Russie. Ce sont beaucoup de gens qui travaillent souvent avec des pays étrangers, du coup qui ne pouvaient plus vraiment travailler ou qui ont eu peur pour leur quotidien et pour leur travail. Et donc, ils sont partis. Et c'est le genre de choses qui va avoir des conséquences durables sur l'industrie tech en Russie et donc sur l'économie du pays et sur l'état du pays, tout simplement. 50 000 personnes en quelques semaines, c'est monumental pour une industrie comme celle-là. Je voulais le mentionner aussi.
D'ailleurs, il y a eu une réaction hein, de Poutine qui a enlevé les impôts sur le revenu pour toutes les personnes qui travaillent dans ce qui est technologie de l'information en 2022, 2023 et je crois 2024. Donc, des fois, c'est dur à se dire est-ce que c'est vrai ou pas ce genre de nouvelles. Mais quand on voit des réactions comme ça, je pense que ça porte de la crédibilité au fait qu'il y a un sérieux souci, quoi. Et ça, c'est vrai que ouais, c'est intéressant à suivre.
Je pense qu'il a très très peur parce que imaginez un pays dont l'industrie tech, enfin un pays sans développeurs, tout simplement. C'est s'il y a une chose, comme tu disais tout à l'heure, qu'on a appris pendant la pandémie et qu'on est encore en train d'apprendre pendant la pandémie, c'est que il y a certaines fonctions, certaines industries où l'autonomie est essentielle. Un pays sans développeurs, c'est une faille majeure pour les possibilités qui s'offrent au gouvernement, quoi. Enfin, au pays, aux citoyens, à tout le monde. Donc oui, clairement, c'est un gros, gros souci. Le casque de réalité augmentée Nazaré V1 n'arriverait pas, c'est le casque de réalité augmentée de Meta, hein, de Facebook, il n'arriverait pas avant 2024. La V2 arriverait en 2026 et la V3 en 2028. Je vais faire une petite série de news en un petit peu plus rapide. Donc, ça, c'est pas pour tout de suite. La chaîne CNN a lancé CNN+, et on est peut-être en train d'atteindre les limites des services à abonnement de streaming. CNN n'a attiré qu'une dizaine de milliers d'utilisateurs actifs quotidiens. Alors, il faut dire que le service n'est encore disponible que sur Roku, qui est un service de set-top box aux États-Unis, très populaire, mais il n'empêche, seulement 10 000 par jour pour une chaîne comme CNN. Bon, c'est peut-être les limites du streaming. Les chaînes d'information ne sont pas forcément séduisantes. Pardon.
Ils ont moins d'utilisateurs que tu as de patriotes. Faut quand même le dire. Donc, tu vois, pour montrer l'impact, tout le monde est conscient, mais pour montrer l'impact
de
Rendez-vous Tech et tes autres podcasts quand même.
Et c'est ça, c'est-à-dire que Patrick a 10 000 patriotes quotidiens.
Ah, donc, oui, voilà.
10 000 patriotes, mais oui, qui viennent chaque jour, évidemment. Snapchat est plus utilisé en France qu'Instagram. Est-ce que tu y crois ça, Ben ? Snapchat, qu'on donnait pour mort il y a quelques années, serait aujourd'hui à 49 minutes d'utilisation par jour, en moyenne, hein, bien sûr, c'est surtout les jeunes, mais il est encore extrêmement populaire et il est plus populaire qu'Instagram. Tu m'aurais dit ça, mais j'aurais jamais...
Alors, ouais, en moyenne, alors tu m'avais dit dans les segments genre 18-25, j'aurais cru, en gros, ou alors ils ont vraiment des personnes très, très, très... qui passe beaucoup, beaucoup de temps. Ouais, je suis très surpris. Alors, je sais que Snapchat existe encore, mais je n'aurais jamais cru non plus.
Alors, c'est moins populaire que Facebook. Hein. On est quand même en utilisation quotidienne. Snapchat, on est à 39%, Facebook 46%, mais Instagram est à 33%. Il faut dire aussi que chez les plus jeunes, Snapchat est beaucoup plus populaire, évidemment, et Instagram, chez les très jeunes, enfin très jeunes, dans le segment le plus jeune, il est quand même assez populaire. On est sur la France entière, Snapchat, 39% de personnes qui l'utilisent tous les jours, Facebook 46%, Instagram 33%. Mais chez les 15-34 ans, Snapchat est à 72%, Facebook 49% et Instagram 60%. Donc, c'est pas que Instagram n'est pas utilisé chez les jeunes, c'est juste qu'ils utilisent Snapchat plus et que ça se ressent sur l'ensemble du pays.
C'est marrant parce que Snapchat, c'est vraiment... l'outil dont on parle pas, tu vois, on est tout le temps ah mais TikTok, que fait TikTok, Twitter, tu vois, pour les personnes qui n'ont pas compris Twitter, on peut revenir un peu en arrière et réécouter une heure sur le truc. Toi, Facebook, on en parle, mais c'est vrai que Snapchat, on l'oublie, hein. Et peut-être que est-ce que c'est notre erreur, tu crois, est-ce que c'est parce qu'on est vieux et qu'on nous, ou bien est-ce qu'il n'est pas si il marque pas son époque à ce point-là, quoi.
Bah, disons qu'il y a plein de choses qui sont notables et marquantes chez Snapchat, hein. Les les stories au premier rang d'entre eux. Mais oui, on pensait qu'il disparaîtrait parce qu'il était tellement sur la pente descendante. Et en fait, ils ont tellement bien géré leur truc. Et je crois aussi que s'ils sont sur la pente descendante, moins de gens l'utilisent. Donc, c'est quand même un truc qui est populaire chez les gens qui ne veulent pas être, tu vois, sur le Facebook de papy ou sur même Instagram qui est devenu très, très consensuel. Enfin, ce n'est pas une question de consensuel, mais tout le monde y est. Alors que Snapchat, ça reste un petit peu obscur, ça reste une interface bizarre. Et puis, ils ont des fonctionnalités qui sont intéressantes. Ils ont essayé des choses. Si tu veux... Dans le contexte dans lequel il était, ils n'avaient pas besoin de révolutionner le monde à chaque fonctionnalité. Ils avaient juste besoin de plaire à un petit segment de la population en plus. Ils ont réussi ce pari et à se maintenir. C'était, moi, je ne les aurais pas donné gagnants. Quoi.
Non. Non, bravo, puis tant mieux. Hein. Oui. C'est bien d'avoir un peu de compétition. Ouais.
Amazon ne va pas faire payer les abonnés. Vous savez, ils ont un pass pour voir les matchs de foot de la Ligue 1. Et il se trouve que la Ligue 1, bah, il n'y a pas de match en été. Donc, ils ne vont pas faire payer les gens pendant 2 mois, ce qui est plutôt cool. Et là, vous dites, oh, bah, ils sont sympas, Amazon, ils ne nous font pas payer. Moi, je crois que la raison pour laquelle ils l'ont fait, c'est pour éviter que les gens ne se désabonnent. Parce que tu ne les fais pas payer pendant 2 mois, pendant qu'il n'y a pas de match, les gens se disent, oh, bah, c'est bon, je ne vais pas me désabonner. Alors que si les gens se désabonnent, il faut que tu regagnes ces abonnés au moment où les matchs recommencent. Donc, pour moi, ce n'est pas du tout gentil. C'est vraiment dans leur intérêt commercial à fond, quoi, chez Amazon.
Non, mais ton abonnement à l'équipe, quand il ne t'intéresse pas, tu ne peux pas leur dire, vous me faites 2 mois. Tu vois, ils sont quand même malins. Ils pensent à ce genre de truc. Et ça semble évident quand ils le font, mais il y a très, très peu de boîtes qui le font.
C'est sûr.
Donc, c'est tous les petits trucs qui font qu'Amazon arrive à se passer devant, quoi.
Ouais, mais en même temps, là, c'est pas juste qu'il y a moins de... tu vois, il n'y a pas de foot, donc t'es moins intéressé par l'équipe, mais il y a quand même énormément de sport dans l'équipe. Là, le Pass League 1, en été, il n'y a juste pas de match du tout. Il n'y a rien. Donc, c'est tout à fait la même chose, quoi. Je pense que beaucoup de gens se désabonneraient. Et puis enfin, on parle de temps en temps de la Chine. Une des conséquences retournement de situation de l'État chinois, du Parti communiste chinois qui a commencé il y a 2 ans à reprendre la main sur l'industrie tech, on va le dire comme ça, et ça continue hein, encore aujourd'hui. Vous savez que moi, je fais une veille qui a pour but de garder le pouls sur l'industrie tech, pas seulement en France et aux États-Unis, mais un petit peu dans d'autres pays aussi, notamment en Chine. Et je vous en parle et je vous note les tendances qui sont notables, justement. Et bien là, ce que je vois en ce moment, c'est à quel point les géants de la tech en Chine sont en train d'avoir des problèmes avec des ambitions revues à la baisse, des start-upers, des fondateurs qui quittent le marché local, parfois même qui quittent le pays tout court, l'impact sur des énormes sociétés comme Xiaomi, par exemple, qui espéraient se battre contre Apple ou Samsung et dont l'action a dégringolé de 50%. Enfin, vraiment... Au-delà de la question de la Startup Nation qui agace parfois certains et de la tech conquérante qui en agace d'autres, là, on a vraiment une situation où un pays, pour garder le contrôle, un parti politique pour garder le contrôle sur la population a vraiment plus qu'handicapé son secteur tech, ce qui va avoir des conséquences, je pense, importantes sur l'économie et sur les citoyens du pays dans les années à venir, parce que c'était l'un des moteurs énormes de la réussite économique de la Chine ces dernières années. Donc on est dans quelque chose d'assez, je dirais même plus que sérieux, d'assez préoccupant, parce que ce que ça laisse, c'est la mainmise du Parti communiste sur le pays dans son ensemble, quoi.
Ouais, c'est tellement... moi, je suis toujours... j'approche toujours les sujets sur la Chine avec beaucoup d'humilité. C'est tellement un pays où je pense qu'avec nos codes, on n'arrive pas à approcher, tu vois. Parce que c'est vrai que pour nous, on regarde ça, puis moi, je ne comprends pas, tu vois. Et pourtant, dans l'intelligence artificielle, quand même pas mal d'endroits où, ils s'en sortent incroyablement bien. Donc, je sais pas, tu as déjà invité quelqu'un pour parler de ça dans tes autres émissions de ce Phileas Fogg. Tu fais ça,
Phileas Fogg, ouais. Alors, je le fais plus malheureusement. Mais non, j'ai pas spécifiquement parlé à quelqu'un de cette industrie. Mais par contre, j'ai lu beaucoup d'interviews et de rapports sur le sujet de gens qui sont et de gens qui ont été impactés par la chose. Et là, on n'est pas dans un contexte où on se dit « Ah bah oui, culturellement, c'est un petit peu différent. » On est dans un contexte très clair où le gouvernement et le parti unique en place a vu une caste de la population gagner en pouvoir et menacer son hégémonie et donc a décidé, avant qu'il ne soit trop tard, de casser la dynamique. Donc, je crois sincèrement, alors je me trompe peut-être, hein, je suis pas un spécialiste de la Chine, mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup de mystère là-dedans. C'est pas, culturellement, ils ont décidé que ceci, cela.
Non.
D'ailleurs, le dernier exemple là, c'est le bannissement d'un service de streaming qui permettait aux joueurs de jeux vidéo chinois de jouer à des jeux qui n'avaient pas été approuvés par l'autorité d'approbation des jeux vidéo en Chine, qui approuve très peu de jeux. Il faut qu'ils soient en accord avec les valeurs du Parti communiste, etc. Donc, on est vraiment dans un contexte de contrôle culturel et de contrôle économique qui est clair. Tu vois, je pense pas qu'il y ait de mystère là-dedans, quoi.
Mais je peux te dire, parce que bon, c'est très anecdotique, donc je sais pas si ça a de la valeur ou pas, mais moi, je connais plutôt des gens en robotique, tu vois. Et il y a pas mal qui ont été, ou qui, après pandémie, hein, qui allaient à Shenzhen pour développer leurs produits. Et les retours que j'avais, qui étaient assez partagés tout le temps, c'est de dire « j'ai réussi à faire des progrès en 6 mois qui m'auraient pris 5 ans ici. » Parce que ça va tellement vite, tu as tous les fournisseurs. Et puis donc, toi, au niveau de la capacité d'innover et puis de la volonté d'innover, en tout cas dans ce domaine-là en robotique, c'était... Très, et c'est toujours très impressionnant, quoi. Après, comment tu maries ça avec, toi, les autres trucs que tu dis, qui sont également factuels, tu vois. Et donc, c'est là où moi, je me pose la question, toi.
Mais je crois que c'est deux choses qui évoluent en parallèle, justement. C'est qu'il y a une excellence dans la manufacture, dans la production et dans la technologie dans son ensemble en Chine. Ça, c'est également une évidence. Ils ont des capacités, un savoir-faire qui est extrêmement poussé. Personne ne le conteste. Mais on parle d'autre chose, là. Là, on parle d'un gouvernement qui a eu peur de la montée en puissance de cette industrie tech avec des personnalités. On parle de Jack Ma, on parle de plein d'autres, et des sociétés qui avaient beaucoup de pouvoir sur le pays dans son ensemble et qui ont dit non, stop, parce que c'est nous qui décidons. Et de fait, ça a eu un impact sur ces sociétés. Et c'est une question de contrôle, c'est pas une question de technologie. C'est à ça que je veux en venir. Et encore une fois, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est les avis et les articles et les analyses d'experts sur le sujet qui confirment ce qui est assez clair à la base. C'est une question de contrôle, c'est pas une question de technologie. Et la technologie, alors même avec tout ce qui s'est passé, c'est un équilibre qu'ils essayent de trouver, j'imagine. Ça reste un centre technologique, la Chine, évidemment. Shenzhen est incontournable, etc., etc. Donc, c'est clair. Mais il n'empêche, tu vois, Alibaba, par exemple, qui espérait devenir un concurrent d'AWS, a été complètement déraillé cette initiative parce que le gouvernement chinois a pris des mesures sur la société en question. On a Xiaomi, on a Alibaba, enfin on en a plein, quoi. Il y a plein d'exemples comme ça. Je veux pas dire qu'ils
C'est intéressant pour te dire, hein, la Confédération, je te dis rapidement, donc le gouvernement suisse a fait une offre publique pour acheter des services cloud. Il y a 4 sociétés qui ont été choisies, ça va pas te surprendre, hein, c'est Amazon, IBM, Microsoft. Cinq visiblement. Je crois que c'est Microsoft et Oracle ensemble, et puis Alibaba. Et je trouvais vachement intéressant que Alibaba soit dans le lot, parce que typiquement c'est le genre de société, tu vois, où on s'attend pas à ce qu'un gouvernement occidental entre en, avec eux. Et donc, ça veut vraiment dire qu'ils ont quand même atteint un niveau. Alors, peut-être, toi, c'est en train de discuter en Chine, mais ils arrivent à régater à l'extérieur et ça leur laisse quand même de la marge, quoi.
Ouais, moi, je crois que la solution est pourtant claire. Il faut aller chez OVH. C'est oublier tous les autres. Oui. OVH.
Bon, on est d'accord. Champion français. On est d'accord.
Bon, oui. Bah écoute.
Un jour, il faudra que tu me parles. Il y avait cette idée de fonderie française, une fois que j'avais vu. On en parlera dans une autre émission. J'avais trouvé ça rigolo.
Ah, bah, il y a, tu sais, je ne sais pas si tu es au courant, mais c'est quelque chose comme 15 ou 20% des processeurs, de la production de processeurs dans le monde qui est faite en Europe. Donc, il y a quand même déjà un savoir-faire. Alors, ce n'est peut-être pas les trucs les plus. Les meilleurs marchés, les plus hautes ouais. technologies. Mais ils existent déjà. Et je ne sais pas si on a des fonderies françaises qui sont en développement, mais ce qui est sûr, c'est que les gouvernements d'Europe, aujourd'hui, suite à la pandémie, encore une fois, sont en train d'essayer d'attirer des fabricants de processeurs, des fondeurs, en Europe. Alors, ça sera peut-être Intel qui fait des yeux doux et à qui l'Europe fait des yeux doux depuis quelques mois maintenant, avec pas des Gelsinger. Ça sera peut-être quelqu'un d'autre. Ça sera bon, on ne s'improvise pas champion fondeur, donc il faut que ça soit quelqu'un de déjà connu, au moins dans un premier temps. Mais il me semble pas juste probable, mais il me semble incroyablement important que ça soit en Europe, en Allemagne ou ailleurs, enfin pardon, en France, en Allemagne ou ailleurs en Europe, est évidemment essentiel qu'on ait plus de capacité de production de processeurs pour avoir une certaine autonomie. Donc... oui, fondeur français, pourquoi pas? Moi, je pense que ce n'est pas du tout impossible qu'on en voit dans les années à venir. Mmh. Au moins en Europe.
Oui, ouais, je pense au niveau européen, ouais. Ok. Ouais.
D'ailleurs, les ASML et des autres constructeurs qui font des machines indispensables aux fondeurs, qu'ils soient à Taïwan, en Chine ou ailleurs, eh ben, ils sont en Nouvelle-Zélande. Ils sont dans le Pays-Bas. Donc, tu vois, on a des gens, il n'y a pas qu'eux, hein, mais Carl Zeiss, ils font les lentilles pour ces machines-là. Enfin, il y a du savoir-faire en Europe aussi.
Ah, ok, ouais, clairement, ouais. Je pense qu'effectivement, ça fait partie des nombreuses discussions stratégiques sur qu'est-ce qu'on doit avoir pour ne pas trop dépendre du reste du monde en cas de coup dur. Et là, clairement, on est en train de le voir, ça en fait partie. Hein.
On est d'accord. Merci Benoît d'avoir été dans le Rendez-vous Tech. C'est un immense plaisir, comme à chaque fois, même si on est... je te remercie d'ailleurs, je profite de cette fin d'épisode pour te remercier d'avoir fait l'avocat du diable sur le premier long segment, même si on t'a interrompu. Tu as été vaillant et j'apprécie ton courage sur le sujet.
Oui, et puis quand bien même, je pense qu'on partage pas mal d'avis, mais de nouveau, alors peut-être pour les auditeurs, auditrices qui ont trouvé ça long, je pense que ça vaut la peine justement de passer du temps sur ce genre de débat. Et c'est pour ça que j'apprécie ton émission, parce que finalement, il y a peu d'endroits, peu de moments où tu sais, on essaye juste pas d'être d'accord en disant « Ah mon Dieu, voilà, ils sont stupides, ils méritent de dégager. » Et donc, j'espère vraiment que la communauté aura pu tirer quelque chose. Et je me réjouis de voir les retours aussi. Parce que voilà, c'est un débat peut-être qu'on ne va pas avoir la percée finale, comme on l'a dit, mais on doit l'avoir à l'esprit.
Je te remercie de le présenter de cette manière, parce que je me sens toujours un peu coupable quand on passe beaucoup de temps, et c'est vrai que là, on a passé beaucoup de temps sur cette question, mais comme on l'a dit, il y en avait deux en une. Hein. Il y avait Elon Musk et Twitter d'une part, et puis cette question éternelle qui revient sur le tapis de la liberté de parole dans les réseaux sociaux. Mais c'est exactement ça, en fait, le but de l'émission à la base, c'est qu'on va passer un petit peu de temps, et dans l'ensemble, on a passé quoi, 30 minutes spécifiquement sur ce sujet, et puis ou une vingtaine sur Elon Musk, mais c'est pas grand-chose pour essayer de comprendre les enjeux d'un problème aussi important. Et il y a, je crois, très peu d'endroits, à moins que vous n'ayez envie d'aller vous farcir 10 à 50 articles différents sur le sujet, il y a très peu d'endroits où on va avoir compte-rendu sur cette problématique-là, alors qu'elle est essentielle sur des questions économiques, politiques. On va avoir des émissions spécialisées sur les médias traditionnels qui vont débattre de sujets longuement et qui vont essayer d'en tirer les enseignements, avec plus ou moins de succès. Sur les sujets tech, c'est beaucoup plus difficile d'avoir ces débats et d'avoir cette exploration. Donc, c'est vraiment le but de cette émission dont parfois, oui, peut-être qu'on peut faire un petit peu moins long que ce qu'on a fait aujourd'hui. Parfois, on dépasse un peu, mais je pense que l'intention est importante. Donc, je te remercie de le présenter de cette manière. Tu as très bien formalisé la raison pour laquelle je le fais de cette manière. Donc, merci beaucoup, Ben. Et du coup, oui, bah, si on a des retours, vous pouvez nous les envoyer notamment sur Twitter, @bcurdy sur Twitter pour Ben, mais on peut aussi retrouver Benoît ailleurs sur l'internet. Dis-nous où on peut te retrouver.
Oui, alors sur Niptech, le podcast, chaque deux semaines. Et puis voilà, non, mais sinon sur Twitter, effectivement. Et puis le bon côté, c'est que nous, on est courtois, donc tout se passe bien sur Twitter. On prend tout.
Exactement. Merci beaucoup, Ben. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook, Instagram, tout ça. NotePatrick.com pour l'ensemble de ce que je produis. Rendez-vous tech, rendez-vous jeu. La newsletter, ne l'oubliez pas. Le lien vers le Discord, le lien vers le Twitch aussi. Et puis, le lien vers le Patreon du rendez-vous tech. Si vous appréciez justement cette manière un petit peu... on va dire pas unique, mais en tout cas assez rare de traiter l'actu tech en profondeur, et ben vous pouvez soutenir cette initiative en allant sur patreon.com/rdvtech. Le lien est dans les notes de l'émission, ça prend 2 minutes. Si vous voulez payer la petite bière, le petit café ou les couches de la fille de Patrick, et bien vous pouvez, patreon.com/rdvtech. Un grand merci à vous tous et à vous toutes. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve dans une semaine. Ciao à tous.